I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, au rang des traumatismes liés à son amour profond du 7e art, garde assez haut dans sa liste ce jour sombre du printemps 2002 où il a dû quitter la salle du cinéma Le Rialto à Morlaix dans le Finistère, au beau milieu de la célèbre scène de viol d'Irréversible. Beaucoup trop de violence pour son petit cœur fragile. Depuis donc, légère appréhension lorsque revient dans l'actualité le nom de Gaspard Noé, comme c'est le cas en cette rentrée avec Climax, son nouveau film dont nous allons causer avec un duo d'amateurs de sensations fortes, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson. Salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 152 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Climax, donc, cinquième long métrage de Gaspard Noé qui nous raconte comment la dernière réunion d'une troupe de danseurs avant leur départ en tournée aux États-Unis va virer au cauchemar lorsqu'ils se rendent compte qu'une substance illicite a atterri dans leur verre et que les effets désastreux du psychotrope commencent à s'emparer de la petite équipe qui par ailleurs a eu la riche idée de se réunir dans un coin paumé juste à côté d'une forêt.
Ce qui ne me tue pas me rend plus forte.
Au casting, on trouve Sofia Boutella, qu'on avait notamment vu dans Kingsman, mais aussi Kid Ismail, Souheila Yacoub et Romain Guillermic. Votre avis sur ce Climax, les amis? Qui veut commencer? Bon, la règle veut que Julien Dupuis étant autour de la table, c'est Julien Dupuis qui commence. On peut briser cette règle pour cette occasion.
Ce serait bien.
Et donner la parole à Perrine Kenson en premier. Perrine?
On brise les règles aujourd'hui avec Gaspard Noé.
Bah oui, comme toujours.
Pourtant, je sais pas pourquoi j'emploie le mot pourtant, mais le film Climax, je dirais que si quelqu'un n'a jamais vu un film de Gaspard Noé,
ou juste une moitié
jusqu'à un début de viol, en soi, je pense que c'est un gros résumé. C'est Gaspard Noé in the nutshell, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce que c'est, ben dans ce film-là, on a à peu près tout ce qu'est Gaspard Noé. On a les mouvements de caméra, on a des thématiques qui reviennent assez régulièrement dans ses films, on a la couleur aussi qui revient, enfin c'est la couleur de l'image comme ça qui revient assez régulièrement dans plusieurs de ses films, une forme de danger, d'extrême dans les comportements, la drogue potentiellement, puisque c'est un peu le centre du film. Donc voilà, on retrouve un petit peu tout ce qui en fait que à la Climax, c'est moi j'ai plutôt apprécié Climax, mais je veux dire ça ne peut pas être le meilleur film de Gaspard Noé puisque ça n'est que le résumé de sa carrière en quelque sorte. Enfin, pour moi c'est vraiment ça. Donc c'est moi j'ai trouvé ça plutôt, je l'avais vu à Cannes puisqu'il était présenté à la quinzaine des réalisateurs, et j'avoue que ça avait été sûrement la meilleure projection cannoise de cette année parce que le film s'ouvre donc avec des personnages, donc ces danseurs qui sont là en train de dire qu'est-ce qu'ils font là, enfin pourquoi ils sont dans cette troupe, pourquoi ils dansent, pourquoi ils font ça. Et donc on a une sorte on a l'impression d'être confessionnel dans Secret Story ou quelque chose comme ça. Enfin, chacun se confie un petit peu sur ça. Donc on nous présente les personnages, c'est plutôt sympathique, mais on se demande où ça veut en venir. Et là démarre une séquence de danse où ils sont dans cette espèce de grand, je sais pas ce que c'est cet endroit, une sorte de salle des fêtes au fin fond de la montagne.
C'est une école.
Une école, ouais, parce que ça ressemble, enfin le truc est très grand. Donc ils se mettent à danser et sur la musique de Céron. Et là pour le coup c'est complètement spectaculaire, c'est vraiment excessivement bien filmé, c'est vraiment sublime. On a quelque chose qui est très très prenant, très entraînant. C'est vraiment les yeux peuvent pas se détacher, on a envie de se lever, de danser avec eux même si on est nul en voguing. Potentiellement, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est vraiment c'est ultra spectaculaire, et c'est-à-dire que le film ne se remettra presque jamais de ça, c'est-à-dire que je trouve que le reste du film n'arrivera jamais à la hauteur de cette séquence-là, qui est absolument sublime. Et donc à la fin, ils s'écroulent tous par terre, et là, le film démarre à peu près vraiment. Et puis, bon, comme d'habitude, chez Gaspard Noé, c'est très déconstruit volontairement. Il s'est amusé à mettre le générique en plein milieu. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui débarquent de nulle part. Mais en même temps, je trouve qu'il continue à être fascinant sa manière de filmer, parce que donc on a ces personnages qui boivent une substance dans une sangria, c'est dit dans la bande-annonce, hein, vraiment, oui. Une sangria c'est répété toutes les 4 secondes, puis d'ailleurs c'est pas bon la sangria, donc il faudrait peut-être arrêter tout simplement.
C'est un statement.
C'est un statement, passer au Tinto 400. De Berano, c'est pas bon la sangria.
C'est parce que t'aurais pas bu de la vraie.
C'est parce que t'as pas bu de la vraie.
La bonne sangria. Julien en a amené pour après l'émission.
Merci.
Merci Julien.
Mais donc voilà, et après, donc, au fur et à mesure, la drogue va faire son effet et ça va se voir notamment par les comportements des personnages, évidemment, mais surtout par les mouvements de caméra. C'est ça qui va être plus intéressant dans le film, c'est que plus la drogue va se répandre dans le système des gens et dans leurs relations, plus la caméra va bouger, va se transformer, va suivre plus ou moins les personnages, va se décaler, va se désaxer pour finir complètement à l'envers. Enfin, il y a vraiment quelque chose où il joue comme ça avec sa caméra. Et c'est d'ailleurs lui qui est beaucoup derrière la caméra. Si j'ai bien compris, c'est lui qui a beaucoup filmé
ces séquences-là.
Donc non, je trouve que le film m'a assez fasciné. Après, voilà, il a été fait en 15 jours, si je ne me trompe pas, ce film. Il est fait en très très peu de temps. Et ça se sent aussi, parce que je trouve que voilà, il y a un truc, c'est pas hyper
fignolé,
c'est-à-dire que voilà, si on s'amuse à comparer un autre film sur la drogue de Noé, qui était Enter the Void, que je trouve 100 fois plus passionnant, 100 fois plus fascinant. Là, on sent que c'est un petit peu, voilà, il y a toute une histoire de rythme, ça marche beaucoup sur le rythme, c'est lié à cette histoire de danse aussi. Et il y a des écarts, des passages dans des chambres qui, pour moi, je trouve, sont presque de trop, voire même décalés, voire donnent des idées un peu bizarres sur le genre. Enfin, je trouve que voilà, il y a quelque chose un petit peu qui pas toujours très justifié. Alors que finalement, quand il suit notamment le personnage de Sofia Botella, c'est là où il est quand même le plus intéressant, surtout dans sa séquence où elle est en mode possession. À un moment donné, elle s'écroule au bord d'une forêt, mais peinte sur le mur alors qu'il y a la forêt tout près. Il y a quelque chose comme ça qui est assez poétique, assez bien fait, mais je trouve jamais fondamentalement achevé, en fait.
Pas abouti. Julien.
Moi, j'ai adoré Gaspard Noé. Je trouve que quand j'ai vu Carne et après Seul contre tous, et puis encore plus Irréversible, il y avait une voix...
Que toi, tu as vu en entier, du coup.
Oui, que j'ai vu en entier. Mais alors, j'ai proposé à ma chère étante de sortir 3 fois de la salle pendant la séquence de viol. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une séquence qui, dans les différents échos que j'ai pu avoir autour de moi, dérange beaucoup plus les gars, en général, que les filles. Bon,
c'est tout à fait possible.
Mais bon, bref. Mais voilà. Et je l'avais un peu perdu avec Enter the Void et puis avec Love. Et je mettais ça sur le compte de deux choses, en fait, qui sont que c'était des films qui étaient trop fabriqués. Et je m'en expliquais après, et puis qui reposait trop sur la narration. Et je pense que Gaspard Noé, c'est définitivement pas un réalisateur fait pour ça. Il est pas fait pour raconter une histoire, il est fait pour nous faire vivre une expérience. Et je pense qu'il parvient à nous faire vivre cette expérience quand il arrive à faire coïncider le propos de son film avec sa fabrication, avec la façon dont il conçoit, en fait, le film. Et je trouve que c'était quelque chose qu'il avait un peu perdu et qui, dans le côté artificiel, surtout, je pense, dans Enter the Void, qui était un film très fabriqué pour le coup, qui avait demandé énormément de post-production, qui avait été très long, en fait, à mettre en place, ben, il se perdait un peu, il s'égarait un peu, il y avait un côté un peu suffisant qui, moi, me faisait déconnecter, en fait, du film. Je l'avais pas ressenti de façon viscérale comme j'avais pu ressentir Irréversible. Et je trouve qu'il y a une... Il y a le contre-pied, en fait, de ça dans Climax, qui se sent d'ailleurs dans la genèse, en fait, du film. Il se trouve que, en fait, Gaspard Noé développait un autre film qui était beaucoup plus compliqué à écrire et qu'il a été fatigué, en fait. Il s'est lassé lui-même, en fait, de ce projet-là, et il s'est orienté vers Climax, qui était un truc qui a été beaucoup plus conçu sur l'instant.
C'était le film sur le suicide de deux artistes,
c'est possible.
Qui étaient persuadés d'être persécutés par la scientologie, qui tiraient de faits réels.
C'est peut-être ça, je sais pas, en fait.
Ça. Mais piloté par Gus Van Sant, produit par Gus Van Sant.
C'est possible. Mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, il y a dans Climax un film qui est fait en réaction, je trouve, à ces deux précédents, et qui renoue, en fait, surtout au mode opératoire, en fait, qu'on pouvait avoir dans Seul contre tous, qui avait été pour le coup tourné sur très très longtemps, où le côté marathon épuisant, en fait, du tournage nourrissait le personnage de Philippe Naon, qui avait, pour l'anecdote, porté les mêmes costumes du début à la fin du film. Alors, il paraît qu'à la fin, ces costumes, ils sentaient le rat crevé, c'était un enfer. Et aussi, donc, dans surtout d'Irréversible, parce que les deux films en fait se répondent énormément dans leur conception et dans leur façon d'avoir été tournés, qui sont à chaque fois une expérience sur une nuit. Donc tu as une unité de temps dans les deux films, t'avais pas une unité de lieu comme tu l'as dans Climax, dans Irréversible, mais en tout cas t'as une unité de temps, et ces deux films qui ont été tournés dans l'instant en fait, avec aussi un canevas scénaristique qui est finalement relativement lâche et qui se repose beaucoup sur l'interprétation en fait de ces comédiens et leur improvisation. Donc voilà, on retrouve de ça, et je trouve que du coup, et ben dans Climax, j'ai retrouvé en fait ce qui me plaisait en fait chez Gaspard Noé, de façon un petit peu diluée. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins puissant, je trouve, que Irréversible, et beaucoup moins puissant que Seul contre tous, mais il y a quand même de ça, et je trouve que là-dessus il y a des choses qui sont très habiles en fait dans Climax, qui sont liées notamment au fait d'avoir choisi des comédiens en fait pour interpréter ce mal-être. Et à ce titre, le fait d'avoir choisi Sofia Boutella, qui ne danse plus en fait depuis quelques années, mais qui a quand même un passif bien costaud, ouais, de danseuse, ben c'est génial, parce que la scène dont parlait Perrine, où elle se met à complètement délirer, etc., ça redevient une espèce de chorégraphie qui, pour le coup, a été improvisée, contrairement à la scène d'ouverture qui est tournée à la Technocrène, donc à la grue, qui est la seule scène en fait du film qui a été chorégraphiée. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et je suis d'accord également avec Perrine sur le fait que c'est un film. Je sais pas si ça résume Gaspard Noé, parce que je trouve que c'est un auteur qui est tellement marqué, qui a des telles obsessions, que de toute façon, tu le retrouves tout ça, en fait, dans tous ses films. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un côté didactique. Déjà, peut-être dans le fait qu'il y a un côté très progressif, en fait. C'est pas un film si violent que ça, en fait, Climax. C'est un film qui se construit sur un crescendo, en fait, et qui t'amène, en fait, à avoir un truc un peu plus choc à la fin. Ce qui n'était évidemment pas le cas de Irréversible, pour le coup. Et ça va même jusqu'à une espèce de note d'intention, qui sont donc ces interviews posées qui ouvrent le film, où sur les côtés en fait de l'image, Gaspard Noé a placé tout ce qui constitue le cœur même des références de son cinéma. C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, sur le côté droit, tu as des VHS et sur des DVD, mais je crois que c'est des VHS. Et sur le côté gauche, tu as des livres, en fait. Et si on connaît un tout petit peu, si on s'intéresse au cinéma de Gaspard Noé, ben on verra que là, il y a absolument ces films de chevet, quoi. Il y a Schizophrénia, par exemple, des choses comme ça. L'autre truc aussi qui me plaît beaucoup, moi, dans Climax, c'est que je pense que Gaspard Noé, c'est aussi quelqu'un qui se nourrit de ses rencontres et de ses collaborations avec ses techniciens. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui a été intéressant quand on a suivi Noé, c'est qu'au début, il travaillait en huis clos avec une équipe réduite à sa portion congrue. Enfin, il était quasiment tout seul, en fait, sur un tournage comme Seul contre tous. Et puis, petit à petit, il y a des gens qui sont venus se greffer, en fait, sur son tournage. Il y a Benoît Deby, évidemment. Mais après, il y a eu par exemple Rodolphe Chabrier de McGufflin qui est arrivé sur Irréversible et que Gaspard Noé considérait comme quasiment le co-réalisateur en fait du film. Et on retrouve ça aussi. Moi, je l'avais un peu perdu aussi dans Enter the Void et puis dans Love. Même si dans Enter the Void, il y avait le monsieur qui avait créé les génériques, son nom m'échappe, je suis désolé.
Mais
qui était aussi un nouvel apport. Et il y a ça aussi dans Climax. Et en plus, c'est un poste qui est super important, qui sont les décors. Il se trouve qu'il a travaillé avec un monsieur qui est peut-être l'un des plus grands chefs décorateurs français, qui s'appelle Jean Rabas, qui a été révélé par les films de Jeunet Caro, et qui se fait un peu plus moins fréquent en fait au cinéma ces jours-ci, mais il a fait un travail absolument merveilleux sur cette école en fait où ils ont tourné, où il a tout repeint, etc. Et je trouve que il a réussi à rester dans la lignée en fait de ce que Noé faisait auparavant, tout en apportant quelque chose de neuf, de chatoyant par exemple au niveau des couleurs. Et du coup, tu as un contraste très frappant qui fonctionne super bien entre l'aspect extrêmement coloré en fait du film et son côté un peu crade, un peu sale, qui moi m'a beaucoup plu. Voilà. Donc je trouve que c'est un film qui est pas, c'est pas le summum de Noé, mais moi je suis content de le retrouver en fait là.
C'est un film rassurant quand on a aimé Noé d'il y a longtemps.
Rassurant, je sais pas si rassurant, Gaspard Noé, ça va bien ensemble.
Ça marche pas très bien. Perrine.
Oui, rassurant, je sais pas si c'est le mot non plus, mais c'est vrai qu'en soi, si on aime bien Noé à la base, c'est un film qu'on passe pas du tout un mauvais moment en le regardant. C'est même plutôt agréable de le voir, ces personnages, cette multitude de personnages évoluer. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est justement avec les vidéos du début où chacun se présente, au début, on se dit non, mais il y en a 26 millions là, des danseurs, jamais j'arriverai à les identifier ou quoi que ce soit. Et dès la première danse et dès la suite du film, c'est-à-dire que tout de suite, les personnalités sont évidentes pour chacun de ces danseurs-là. C'est-à-dire qu'à partir de leur chorégraphie, donc dans cette chorégraphiée, comme disait Julien, ils ont chacun leur moment, leur momentum dans la chorégraphie, et qui définit un peu leur personnalité. Ce qui est assez fou, parce que tout de suite après, j'ai retenu aucun prénom des personnages. Par contre, je sais exactement qu'est-ce qu'il représente, quelle typologie de personnage il est, quel type de personne il est, en fait. Et je trouve que c'est très fort d'avoir su faire ça avec finalement que de la gestuelle, que du geste, que du cœur, et pas du tout de le dialogue. Finalement, il passe presque à l'as dans le film, puisque tout n'est que communication des corps et vibration des corps. C'est assez fascinant dans le film.
Julien.
Oui, je vais ajouter un petit truc là-dessus, c'est que quand je parlais des parallèles entre ce que le film nous dit et de la façon dont le film est fabriqué, c'est un film choral Climax, c'est son premier film choral à Noé, c'est quelqu'un qui est vachement dans le récit subjectif, en fait, par exemple. Ça correspond aussi, je pense, à un film d'équipe. C'est pour ça aussi que je parlais de Jean Rabas tout à l'heure. Et je pense que, parce que t'as le générique, en fait, au début du film, comme il le fait tout le temps, mais c'est vrai que t'as le nom de tous les chefs de poste qui arrivent un peu plus tard dans le film. Et je pense que c'est une façon aussi de Noé de signaler que c'est pas un film qui a été fait uniquement par Gaspard Noé, mais qui a été fait par toute une équipe. Et je tiens à souligner ce truc-là, parce que pour moi, ça aussi, c'est en réaction avec Love et Enter the Void, et surtout Love, où moi, je sentais poindre quelque chose de l'ordre de l'égocentrisme. Il se donnait un propre rôle, un rôle dans Love, où c'était un peu... C'était grotesque. Alors, on pouvait le prendre d'un côté ironique et tout, mais il y a toujours une duplicité chez Noé, où le mec va te dire qu'il est assez naïf, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et qu'il aime bien jouer avec ce genre de frontières et tout. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu malsain, un peu suffisant. Enfin, moi, c'était un truc qui m'avait un peu éloigné aussi du film, en fait, ce caméo de Gaspard Noé dans Love. Et le fait que ils remettent comme ça en avant toutes les personnes qui ont contribué à fabriquer le film au cœur du film et qui leur permettent par cette trouvaille graphique de participer eux aussi en fait à cette grande chorégraphie qu'est Climax. Je trouve ça très agréable, très sain, et puis c'est vrai que c'est, enfin je sais pas, ça amène une rupture de ton et ça te rappelle aussi au fait que t'es en train de voir aussi un objet filmique. Ça te rajoute une distance plaisante en fait pour rentrer en fait dans le film ultérieurement.
Quelque chose à rajouter sur Climax? L'un ou l'autre?
Non, pas spécialement. Après, on peut évoquer les thématiques un peu du film, mais c'est parce que non, il y a pas vraiment plus que thématique. Pour moi, c'est plus un objet vraiment visuel et puis donc sonore, parce que la musique a une part très 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 importante. Il y a du Aphex Twin, il y a du Céron, il y a du Daft Punk. Enfin, c'est une grosse BO bien bien cool. C'est la BO de ta soirée, quoi. Donc non, c'est bien. Mais après, voilà, le film est aussi coupé par des cartons qui citent alors je sais plus ce que c'est, parce que moi j'ai vu un petit moment, mais je sais plus si ça vient de Dante ou je sais plus. Enfin, il cite quelque chose de la littérature et donc il y a un lien avec évidemment cette notion d'enfer, de paradis, et on a l'impression que tous ces personnages sont dans une sorte de purgatoire, et peut-être qu'il y en a un qui s'en sortira. Il y a un truc qui m'a fait penser d'une certaine façon extrapolé à Cube, le film Cube, où voilà, on a l'impression que voilà, c'est des personnages qui sont les uns avec les autres, et un seul potentiellement s'en sortira.
Donc, les autres finiront découpés en D.
En D, exactement. Je m'en souviens, c'était bien. Mais voilà, donc il y a ces thématiques-là, mais je dirais que c'est tellement secondaire par rapport à la forme.
À l'expérience.
Ouais, voilà, à l'expérience, au ressenti.
Il fallait aller le chercher sur les thématiques, forcément.
Non, mais comme il les a mis avec ses cartons, qui, pour le coup, s'il les a fait pour chapitrer presque, je me dis que c'est qu'il y a une sorte de but peut-être derrière ça.
Je pense que c'est surtout que ça te met dans un état d'esprit particulier. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, ces espèces de messages qui te martèlent, en fait, à intervalles bien particuliers, Noé. Mais j'ai jamais trop cherché. Il y a peut-être un truc, en fait, dans le film. Alors, moi, je vais pas dire que c'est un. Parce qu'il y a un drapeau français, en fait, au fond et tout. Je crois que j'ai entendu.
J'ai cru comprendre
dire...
que c'était complètement par hasard. Oui, en fait, oui, c'était une histoire de. Il leur manquait des bandelettes de couleurs.
En fait, c'est un truc de Jean Rabas, ça. Mais du chef d'écho, donc. Mais c'est vrai que. Le seul truc, après, c'est pas un regard sur la France d'aujourd'hui ou je sais pas quoi, mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, on va dire, thématiquement, si on se lance un peu là-dedans, c'est comment fonctionne un groupe humain, en fait, et comment il peut dérailler, comment il peut créer... en fait, c'est une espèce de psychothérapie d'un groupe de gens, en fait, et comment ça peut devenir un esprit complètement malade, comment au contraire, tu peux avoir une lueur d'espoir et l'espoir peut être communiqué à gauche, à droite. Enfin, voilà,
c'est comment quand tu mets une goutte de quelque chose dans quelque chose qui est plutôt bien rodé, c'est-à-dire les relations entre ces personnages-là, quand on le voit dans la chorégraphie, c'est rodé entre eux. Et d'un seul coup, tu mets une dose d'inconnu, qui est cette drogue, et voilà comment ça se barre en vrille derrière. Donc c'est aussi, je suis d'accord avec Julien, en fait, c'est en effet comment un groupe de personnes, à partir du moment où il y a une donnée inconnue, un X inconnu, va perturber l'équation.
Avant de se quitter, les amis, on va prendre le temps de quelques recommandations bien senties à destination de nos amis auditeurs. On peut évidemment s'éloigner de l'univers de Gaspard Noé qu'on a bien balisé là, même si vous avez des choses à rajouter dessus. N'hésitez pas, parce que, comme toujours, vous êtes totalement libre. Qui se lance en premier, ce ne sera pas Perrine qui fait non, ce sera donc Julie.
Moi, je conseillerais déjà de revoir les premiers Gaspard Noé, y compris ses courts. Non, mais c'est un peu
tricheur,
de la tricheur. Ouais. Et je peux d'ailleurs étendre à Lucila Dilalovic, en fait, qui a été sa compagne à une époque, avec qui ils ont partagé certains chefs de poste aussi. Et moi, j'aime beaucoup le cinéma de Lucila Dilalovic, en fait. Je trouve qu'il y a... Oui, aussi, exactement, mais elle avait fait un moyen-métrage qui s'appelle La bouche de Jean-Pierre, par exemple, qui est extrêmement dérangeant, mais qui a un univers visuel qui est, voisin de Noé, mais c'est pas la même chose, c'est quand même très, très particulier, c'est très atypique. Mais sur Noé en particulier, moi, je conseillerais le commentaire audio d'Irréversible, surtout comme Thomas Rozek, on n'a pas réussi à voir le film jusqu'au bout. Parce que ce qui est génial, en fait, c'est que Noé, il est passionné par la fabrication des films. Et c'est tout à fait communicatif. Et en plus, quand on l'a déjà entendu en interview, c'est quelqu'un qui parle doucement, mais très vite. Il a un grand, gros débit. Ouais. Et ce qui est génial de ce commentaire audio, c'est qu'il n'arrête pas sur le truc. Il est épuisant, hein, quelque part, son commentaire audio, mais il te donne déjà du recul par rapport à un film qui, je pense que si t'es normalement constitué, t'as complètement retourné quand même, parce que c'est quand même... moi, je pense que c'est une des expériences les plus fortes que j'ai vécues au cinéma, Irréversible. Et c'est, je trouve que c'est fascinant de voir comment il l'a construit, en fait, ça. Et en plus, il y a dans ce commentaire audio plein de petits détails de fabrication... Tu te doutes pas que ça a été fait comme ci ou comme ça, et c'est passionnant. Je trouve que c'est mieux que n'importe quel texte analytique que vous pourrez avoir sur son œuvre. Parce qu'il faut revenir à des choses simples, en fait, je pense, chez Noé. Même s'il a été reconnu à juste titre, hein, comme un auteur vraiment passionnant en France et tout, c'est bien de revenir à la simplicité quand on parle de son cinéma.
Ça existe en forme purement audio, juste audio?
Non.
On est obligé de
mais
voir
non,
le
mais
film.
Je te jure, tu verras, c'est pas pareil. Quand tu sais comment ça a été fait, quand tu sais comment ils ont tourné,
mais
quand
tu peur.
Sais quel.
Mais
il faut voir Irréversible jusqu'au bout. Lui, il fait une analogie que je trouve pertinente, en fait, sur Irréversible. Il dit que c'est un film qui te dégueulasse, qui te salit pour te doucher à la fin. Et je trouve qu'il y a de ça. Moi, je trouve que la fin, je vais pas te la spoiler coup, et je vais pas la spoiler aux auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Mais il faut tenir le coup, en fait, sur Irréversible, parce que moi, la fin, elle est magnifique. Je trouve c'est fou quand tu vois le début du film. Mais moi, j'avais souri, et tu souris d'autant plus que t'as traversé l'enfer. Quoi, avant, et que t'as vu Joe Prescia sous son pire jour là.
Voilà. Je ne peux pas. J'essaierai peut-être pour te faire plaisir. Pyrine.
Eh bien, je sais pas si j'ai le droit de reciter un film dont j'ai parlé la dernière émission un récap. Non, parce qu'on parlait, d'expérience.
Oui.
D'expérience. Donc j'avais envie de reparler.
Reparler de Caniba.
Voilà, c'est ça. Une fille qui ne détache pas de Caniba.
Je ne s'en ai jamais remise.
Mais non, dans ce cas, je citerai Caniba, mais aussi évidemment Léviathan, le film d'avant de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Je suis obligée de lire à chaque fois parce que je ne retiens pas leur nom. C'est un peu compliqué. Mais parce que voilà, dans le genre cinéma qui provoque des sensations physiques. Où on est happé par une image qui ne va pas toucher que notre cerveau et notre rétine, mais qui va embarquer tout notre corps et que littéralement donne des pulsions de frissons, de vomi. En ce qui concerne dans Caniba, moi, j'étais vraiment border nausée. Donc je trouve que c'est ce type de cinéma-là qui, pour moi, d'un seul coup, a du mal à se raconter, mais se vit avec. C'est l'idée que le cinéma, c'est vraiment un art complet, et là c'est vraiment, ça atteint chaque partie du corps, et c'est à la fois fascinant et terriblement gênant, très très gênant.
Tu voulais
rajouter encore une recours, je parle
si,
trop.
Non,
mais on en a parlé un petit peu, mais si tu veux, si t'as un truc comme ça, surtout pour comprendre aussi le cinéma de Noé, il faut voir Schizophrénia, Angst, qui est un film hallucinant, qui est une espèce de grand monologue intérieur d'un tueur en série, alors qu'il va commettre ses exactions. Et moi, il se trouve, je l'ai vu présenté par Noé, d'ailleurs, c'était assez dingue, quoi, comme expérience. Juste avant de découvrir Seul contre tous, qui passait, je me souviens, au Max Linder, avant de passer à la commission de censure, parce qu'il y avait tout un scandale autour du film, évidemment.
Avec des scènes.
Mais,
Non, de sexe non simulé, je crois. De, c'est ça dans, de seul contre tous, c'était pas ça
Non, je crois pas. Non,
il me semblait.
Non. Mais il fait pas ça, en fait. Hein, Noé. C'est plus compliqué que ça. Hein, son truc. Mais enfin, bref. Et Méhanx, c'est un film incroyable. C'est un film formellement qui propose en plus des choses assez dingues, quoi, dans le point de vue, en fait, justement, dans la façon de suivre le personnage, de se rattacher à lui, ou alors de prendre beaucoup de hauteur, littéralement, parce qu'il y a des plans à la grue où tu te demandes comment ils ont réussi à faire ça. Voilà, ça existe chez Carlotta. Je sais que Carlotta avait ressorti une très belle édition, en fait, de Schizophrénia. Angst, Schizophrénia.
Voilà, il y a quelque chose comme 8 ans, à peu près, ils avaient ressorti ça.
Ouais, voilà, mais bon, c'est à voir. Si vous êtes courageux.
Si vous avez plus de courage que moi, sous-entend-il, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux.
Exactement.
Merci à Jules, à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.